toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux.
Je savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
19h, 20h.
Vraiment, un mec surfait, c'est bien Mozart, quoi.
Mozart. Beethoven, c'est quand même autre chose, hein, je suis désolé.
Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle.
Les parrains de Bande à part avec Bernard Blier, François Truffaut, donc Michel Houellebecq et Brigitte Bardot. Les invités, vous les connaissez, c'est la bande de Bande à part, Bertrand Burgala, Carole Beffa et Marc Langron. Et nous allons immédiatement commencer cette émission consacrée au prodige par celui qui est peut-être le prodige des prodiges. Il s'agit évidemment de Mozart. Vous allez écouter la tartine au beurre dite valse à un doigt. C'est Émile Naoumoff qui est au piano. Mozart l'aurait composé, tenez-vous bien, à l'âge de 5 ans, bien que certaines prétendent que c'est peut-être son père Léopold, qui lui aurait soufflé. Voici. Je convoque les deux musiciens que sont Bertrand Burgala et Carole Beffa. Comment s'expliquent l'un et l'autre la précocité en musique? Est-ce que c'est une question d'ascendance culturelle? Il y a beaucoup de familles de musiciens, Mozart, Bach, etc., etc. Ou est-ce qu'il y a vraiment l'idée que surgit de nulle part un prodige peut naître? Carole.
Oui, il y a beaucoup de dynasties de musiciens. Il est possible, ça les sciences cognitives nous diront bientôt, que la part de l'inné soit importante, même si, évidemment, la musique suppose un grand apprentissage. Alors, la part de l'acquis doit aussi avoir son rôle. Simplement, on va probablement plus facilement se plonger dans des études longues, difficiles, sinueuses.
Quand une ombre est là, quand le ombre est derrière vous.
Exactement. Quand on a une ombre tutélaire, vous disiez justement qu'on ne sait pas trop pour les œuvres écrites par Mozart à 4-6 ans, si c'est effectivement lui qui les a écrites ou si Léopold n'a pas un peu mis la main à la pâte, dans son cas, l'ombre était évidemment, on va dire, envahissante. Et ça a fait un compositeur de génie, dont on doit remarquer néanmoins que la plupart des œuvres de Mozart que l'on joue, eh bien, elles sont écrites après 16-18 ans, quelque chose comme ça.
Camille Saint-Saëns, dans un instant, l'avis de Burgala auparavant concernant les musiques qui ne sont pas justement les musiques type classique. C'est vrai que pour le jazz, on écoutera tout à l'heure par exemple Bill Evans, ça commençait extrêmement tôt, il jouait à la fois du piano, de la flûte et du violon, ce grand pianiste. Mais est-ce que vous avez cette même conception, c'est-à-dire que l'ascendance joue quand même un rôle considérable?
Je ne sais pas, je trouve que ce qui est intéressant avec la musique, c'est qu'il y a trois choses pour moi. Il y a du sport, c'est-à-dire qu'il y a la mémoire musculaire de l'instrument. Il y a des mathématiques, c'est la théorie musicale qui est très rationnelle. Et puis il y a le reste. Et le reste, c'est ce qui fait souvent la différence justement entre un très bon instrumentiste et un musicien extraordinaire.
Et là, ça peut venir de nulle part.
Et ça, c'est dans tous les domaines. Et ça vient de nulle part. C'est ce qui fait que parfois, vous avez des espèces espèce de chiens savants qui vont très très bien jouer, mais ça n'a pas d'âme. Et ça va être intéressant d'ailleurs avec l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui on va pouvoir reproduire, on va pouvoir faire ingurgiter une machine des choses, y compris du Bartok, et elle pourra faire des choses à la Bartok, pas plus mal que certaines compositions un peu scolaires. Mais ce qui fait la différence, tout d'un coup, c'est à un moment, c'est l'âme, c'est quelque chose qui est complètement... Et ça n'est pas atavique, c'est autre chose. Ce qui est difficile aussi, c'est que vous avez aujourd'hui, par exemple, à Paris, les conservatoires recrutent par tirage au sort, ce qui est la chose la plus inégalitaire, en réalité. C'est un égalitarisme totalement inégalitaire, parce que des familles qui ont des revenus modestes, si leur enfant n'est pas tiré au sort, n'aura pas accès à la pratique musicale.
Nous allons entendre que des chefs-d'œuvre pendant cette émission de Bande à part. Voici Camille Saint-Saëns, ce concerto pour piano numéro 5, égyptien, joué par Alexandre Kantorov, avec le Tapiola Sinfonietta, dirigé par Jean-Jacques Kantorov, papa. Quelle musicalité extraordinaire pour Alexandre Kantorov, pour la direction d'orchestre. Ne soyez pas trop sérieux, Carole, je vous ai vu plonger dans une sorte de méditation, d'ailleurs pourquoi pas, à propos de Camille Saint-Saëns. Mais pourquoi avez-vous choisi ce titre?
D'abord pour deux raisons, à la fois pour les interprètes, on parlait de dynastie, on a là effectivement deux immenses musiciens, Alexandre Kantorov qui a marqué l'histoire de l'interprétation en remportant un premier prix au concours Tchaïkovski. Et puis on a Camille Saint-Saëns, qui n'est pas le moindre des musiciens lui aussi, enfant prodige absolument incroyable, apprend le latin et le grec extrêmement tôt, qui à 3 ans donnerait son premier concert. En tout cas, on sait qu'à 11 ans, il en donne un où il demande au public de lui mentionner une sonate de Beethoven et il va au piano la jouer.
3 ans, ça paraît totalement invraisemblable.
Ça paraît totalement délirant. Alors, j'ai eu la chance de me pencher sur lui à l'occasion d'un livre que j'ai fait paraître pour les 100 ans de sa mort, Saint-Saëns son fil de la plume, où j'étudie un peu les écrits de Saint-Saëns, parce qu'en plus c'est quelqu'un qui s'intéressait absolument à tout, et sa culture était encyclopédique, il pouvait s'intéresser aussi bien au droit de grève en Grande-Bretagne, qu'à la question de savoir lesquelles des racines, des fruits on pouvait manger en temps de disette, que la prononciation du latin d'église, la différence entre Racine et Shakespeare, enfin bref, c'était un esprit universel, un pianiste, un organiste, un chef d'orchestre absolument fabuleux.
Nous allons passer maintenant à Bill Evans, que j'évoquais tout à l'heure. Il est né en 1929 à Plainfield, dans le New Jersey. Evans a reçu sa première éducation musicale à l'âge de 6 ans, dans l'église orthodoxe que fréquente sa mère, d'origine russe, et apprend en plus du piano à maîtriser le violon et la flûte. Il apprendra aussi à lire avec aisance. Tout à l'heure, on parlait de cette gymnastique avec Burgala, des partitions de musique classique, notamment Debussy, Ravel, Stravinsky et Milo. Et là donc, c'est un des grands classiques du jazz, Autumn Leaves, 1959. L'empereur du piano en trio avec Bill Evans, donc, qui a suivi des études au South Eastern Louisiana College, emmené par son frère, il étudie du jazz, il a joué avec tous les plus grands musiciens du monde, et notamment, évidemment, ceux qui aiment le jazz le savent sur antenne de Radio Classique, en suivant l'émission de Laurent Deville avec Miles Davis. Nous allons enchaîner maintenant avec quelque chose de très particulier dans la culture américaine, c'est le fait justement de pousser des adolescents, que des parents poussent des adolescents à faire des grandes carrières. Alors c'est un peu l'industrie Disney, mais dans le cas présent, il s'agit de l'exemple le plus marquant de l'histoire de la musique. Il s'agit des Jackson 5 avec I Want You Back en 1969. Michael Jackson avait 11 ans. Voilà le talent exceptionnel de Michael Jackson avec l'ombre du père, évidemment, sur cette carrière. Dès l'âge de 11 ans, il enregistre. Et il est le leader d'un groupe, donc, qui comprend tous ses frères, vous le savez, avant qu'il ne prenne, évidemment, son envol tout seul pour aboutir à ce fameux Thriller. Produit donc par l'un des plus célèbres producteurs de l'histoire du jazz que vous connaissez par cœur, Marc Lambron, car vous avez consacré un livre entier à Michael Jackson.
Ça m'est arrivé, j'aime bien les monstres, comme thératologue. Alors là, en effet, c'est intéressant Michael Jackson, parce qu'on retrouve la tutelle paternelle, ça c'est le producteur plus tard, qui vient d'ailleurs de la Scola Cantorum, de Naya Boulanger à Thriller. Il naît en 58, dans l'Indiana, c'est une famille de 10 enfants. Le père, qui est métallurgiste, est en même temps guitariste dans un groupe de rhythm and blues, et la mère joue du piano et de la clarinette. Alors, 64, on fonde un groupe, les Jackson 5, en effet. Le père met les enfants sur la route, et c'est un père, c'est un peu comme Stromboli dans Pinocchio, si on se réfère à... C'est-à-dire, c'est un père abusif, un père dresseur, mais il obtient ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire le groupe est signé par Tamla Motown, qui est cette usine à succès de Detroit, qui cherchait un successeur à un enfant prodige qui était Little Stevie Wonder, qui, dès l'âge de 12 ans...
Nous parlerons tout à l'heure.
Mais le problème avec un enfant chanteur de sexe masculin, c'est qu'il mue. Et en plus, Stevie Wonder prend sa propre indépendance. Donc, 69-70, ils enregistrent un premier disque qui va être un succès énorme avec comme marraine Diana Ross. Michael Jackson a 11 ans et demi, mais on va diminuer pour la presse son âge, donc il a prétendument 9 ans. C'est un chanteur et c'est déjà un danseur. Et je vous recommande d'aller voir sur YouTube une prestation où on voit très bien en germe l'artiste qu'il va être. Dernière chose, qui a composé « I Want You Back » Je vous le donne en mille. Joseph Jackson, le père.
Judy Garland, c'est un autre registre justement de la culture américaine des jeunes artistes. Il y a même eu une usine Disney dans les années 80-90-2000 avec les Selena Gomez, Justin Timberlake et tant d'autres. Judy Garland, donc Somewhere Over the Rainbow, qui est un extraordinaire titre et extrait du Magicien d'Oz de Victor Fleming en 1939. Elle avait 17 ans. De mère en fille, Judy Garland à Liza Minnelli, elle avait 17 ans, donc Garland à cette époque-là. Et c'est une question que je vous pose, vous qui connaissez particulièrement bien l'histoire de la musique. C'est vrai que souvent, alors on a l'intention ou on a l'impression de sombrer dans le mélodrame, mais commencer jeune, avoir un énorme succès, ça appelle souvent, et ça a été le cas de Judy Garland, ce qu'on appelle tout simplement le trauma. Je ne sais pas si c'était le cas de Saint-Saëns, je ne sais pas si c'était le cas de Litt ou de tous ceux qui ont fait des carrières absolument prodigieuses rapidement. Mais est-ce qu'on peut généraliser ça à l'histoire de la musique? On va commencer par le plus marginal, Burgala.
Ah, je n'ai rien de spécial à dire là-dessus. Je passe mon tour.
C'est un succès phénoménal comme les Jackson 5 quand on a 11 ans et demi.
Non, mais
quand on a l'expérience de la scène, c'est tenable.
Je pense que d'une façon générale, le succès, c'est quelque chose qui est difficile. Quand on est habitué, comme moi, à une forme de demi-succès ou de marginalité, je ne dis pas que c'est plus confortable, mais j'ai vu souvent, on le voit, c'est un miroir, on le voit pour des écrivains, on le voit pour des vedettes, et je trouve que de toutes sortes, il faut être très fort. Et quand on n'a pas beaucoup de succès, on se persuade que tout ce qu'on fait, c'est parce que tout ce qu'on fait est génial. C'est très dangereux aussi. On se dit les gens sont des idiots, la presse, les radios, tout ce qu'on veut. Mais quand les gens ont du succès, on le voit même en politique, il y a l'hubris, il y a un sentiment de toute puissance.
Et puis il y a l'enchaînement, parce que là, il s'agit des concerts aussi. Il y a l'enchaînement, l'épuisement.
Et là, effectivement, on parle quand même dans l'industrie américaine de machines qui étaient extraordinaires.
Et qu'ils sont restés d'ailleurs. Et qu'ils sont restés pour beaucoup de gens. J'évoquais Timberlake, Selena Gomez et les autres. Vous vouliez ajouter Lambron, Marc?
Oui, ben là, Judy Garland, c'est un peu le primitif de Michael Jackson. C'est-à-dire, on a la tutelle parentale, on a l'usine et on a la drogue, dans les trois cas.
Alors elle. Et l'alcool.
Et l'alcool. Elle est née en 22 dans le Minnesota. Ses parents, comme par hasard, sont acteurs de variété et ensuite le père devient gérant de cinéma. Donc il y a à la fois le music hall et le cinéma. Et elle a deux sœurs aînées avec lesquelles ils ont formé un trio qui s'appelait Gum, les Gum Sisters. Un peu comme Fred et Adèle Astaire, qui ont aussi été des enfants de la scène, des danseurs de claquettes.
Elle a commencé à apprendre la danse à 5 ans, Fred Astaire.
Elle est signée, absolument. Elle est signée par la MGM, comme Michael Jackson sera signé par la Motown. Et il y avait déjà une école d'enfants stars. Dinah Durbin, Mickey Rooney, Judy Garland. Pourquoi? Pour faire pièce à une idole d'un studio concurrent qui était la Fox et qui était Shirley Temple. Alors, elle tourne quelques films oubliables. Et puis, en 39, il y a Oz. Elle a déjà 17 ans. Or, le personnage de Dorothy en a plutôt 13. Donc, on va la rajeunir. Pour la publicité. Et on en arrive à la toxicomanie précoce. C'est que le studio, de manière assez ignoble, lui donne des amphétamines pour la maintenir en ligne. Elle dort mal et elle verse dans les barbituriques. Donc, elle mourra à 57 ans, toxicomane, alcoolique, et ça commence très tôt. Dernière chose, puisqu'on parle des prodiges, le film est signé Victor Fleming. Et en 39, tenez-vous bien, il va sortir sur les écrans en août Le Magicien d'Oz et en décembre Autant en emporte le vent. Il a tourné et ça, c'est Hollywood.
Burgala, vous voulez rajouter quelque chose?
Ça me fait penser ce que dit Marc. Le jeunisme de l'industrie du disque, parfois, ça peut donner aussi des accidents marrants. Et mon ami Andrew King, qui était le manager de Pink Floyd, de Mark Bolan, de Ian Dury, m'avait raconté que dans les années 70, il avait signé un single de Noël qui commençait à cartonner aux États-Unis. C'était un enfant de 10-11 ans qui chantait un truc genre « Papa, don't go », un truc. Et ils allaient passer à Top of the Pops. Il appelle les producteurs qui étaient des Sud-Africains, disent « Envoyez le gamin, on passe à Top of the Pops
qui était la mardi. Grande émission donc et en Grande-Bretagne.
Et les producteurs disent, vous êtes sûr que vous voulez qu'il vienne? Et tout, si, ils vont le chercher à Heathrow. Et il dit, il avait 30 ans, il avait de la moustache. Ça a été la fin du single.
Vous allez écouter un petit document trouvé par Philippe Gault. Tout le monde se souvient des débuts de la jeune et ravissante Vanessa Paradis. C'est sa première interview avec le défunt Jean-Pierre Pernaut. C'est à propos évidemment de Joël Taxi, ça nous permet de penser à Rhoda Gil et de lui rendre hommage. Elle n'avait que 14 ans.
J'avais envie de chanter quand j'étais plus petite, mais j'aurais jamais imaginé faire un disque. Et puis vraiment vers l'âge de 11-12 ans, j'ai eu envie de faire un disque.
Alors je crois que vous avez très très envie de faire du cinéma. C'est possible à votre avis ça?
Bah oui, pourquoi pas. Il y a d'autres gens qui l'ont fait avant moi.
Oui.
Mais bon, pour l'instant je pense que... On va plutôt préparer le second 45 tours. Et bon, si j'ai des propositions qui me conviennent, pourquoi pas.
Ce que j'aime et ce qui est important justement dans la carrière de Vanessa Paradis à cette époque-là, c'est d'interpréter le « on ». On va enregistrer un autre album, dit-elle. On va peut-être faire du cinéma, donc on sent que derrière, il y a à la fois son talent, sa fraîcheur, le fait qu'elle chante juste, mais aussi le « on » qui ne peut être que la famille ou en tout cas les producteurs qui l'entourent. Voici que nous retrouvons un personnage qu'on a évoqué tout à l'heure, qui a joué un rôle énorme dans l'histoire de la musique, Nadia Boulanger. C'est « Lux Eterna », cantique composé en 1909 et dont va nous parler Bertrand Burgala. L'éclectisme de Radio Classique consacré aux grands compositeurs, mais qui nous permet évidemment d'entendre des choses différentes dans ce domaine des prodiges, Mozart, Camille Saint-Saëns, Bill Evans, les Jackson 5, Judy Garland. Ou là, donc, après ces quelques mots de Vanessa Paradis, Nadia Boulanger, que vous avez choisi pour quelle raison, le musicien producteur Burgala Bertrand?
Eh bien, j'ai choisi pour être au plus près du mot prodige. Je trouve que la musique, pour moi, ce que la musique peut avoir de plus beau, de plus enchanteur, c'est un morceau comme celui-ci. Et la joie de faire de la musique ou d'en écouter, si je devais la résumer à quelques morceaux, je prendrais ce Lux Aeterna qui a été composé par Nadia Boulanger. Alors souvent, quand une sœur ou quand les gens disparaissent, on a tendance toujours à vénérer l'autre. C'est un peu les snobs qui disent qui préfèrent Françoise d'Orléac qu'à Catherine Deneuve. Et je pense que les sœurs Boulanger sont tout aussi intéressantes l'une que l'autre. Et ce que je trouve beau, c'est qu'on est la musique, il n'y a aucun étalage. On n'est pas dans ce côté acrobatique que peut parfois les compositeurs ou les instrumentistes peuvent se griser de leur propre talent. Et là, tout est vraiment à l'os, dans l'émotion. Voilà, c'est pour ça. J'ai essayé, quand on pense prodige, pour moi, c'est ce miracle de la musique.
Et le cœur qui parle, c'est pour ça que Bertrand a choisi, par exemple, quelque chose qu'on connaît très peu, des Beach Boys, ce groupe de Californie, dont le plus célèbre album s'appelle Pet Sound. Ce sont des Beach Boys a cappella qui chantent « Their hearts were full of spring ». Répétition avant un concert à Miami que voici. C'est peut-être grâce à ce morceau, Bertrand, qu'on se rend compte à quel point les Beach Boys, peut-être même plus que les Beatles ou d'autres, avaient dans la façon de chanter ensemble réussi à obtenir une sorte d'accord merveilleux.
Oui, ben le prodige, il est là. C'est que ces voix de ses frères et de leurs cousins s'accordent si bien. Je trouve que c'est magnifique. Le prodige aussi, c'est le génie de Brian Wilson, qui a été souvent un peu caché au départ. C'est-à-dire que ses frères, leur père, c'est ce que disait Marc sur les Jackson, s'applique à merveille aux Beach Boys. C'est-à-dire que Murray Wilson est un musicien par procuration abusif et assez brillant en même temps, mais totalement despotique et qu'il est
enfin, le fameux « on ».
Ouais. Et donc que Brian Wilson, sourd d'une oreille, puisse faire ces choses-là, parfois donc dans l'hostilité, quoi, soit de la maison de disques quand il fait Pet Sounds, soit de ses frères, je trouve que c'est merveilleux. Et puis il y a quelque chose, c'est des prodiges, c'est des génies qui sont en vie. Les sœurs Boulanger malheureusement pas, mais ceux dont je vais essayer de parler aujourd'hui, ce sont des génies vivants et je trouve que c'est toujours bien de les honorer.
En tout cas, Brian Wilson, car il y a
juste une chose, il y a l'ambition d'écrire une symphonie teenager dédiée à Dieu. Donc il y a symphonie et Dieu. C'est assez rare dans la pop musique.
C'est un autre phénomène quand même. C'est que je pense que des personnes qui ont fait des choses aussi prodigieuses, ce qui est très difficile, quand on a fait un disque comme Pet Sounds, qui en plus a été un demi-succès à l'époque, qui aujourd'hui est très bien considéré, on se dit qu'est-ce qu'on va faire après. Et on peut pas répéter la recette. Et je pense qu'après toute sa période un peu folle après cet album, elle vient de ça. C'est-à-dire qu'il n'avait pas grimpé deux fois l'Everest.
Enfin, sauf ce qu'il a brisé, c'est que les Beatles, après Revolver, qui est un peu leur Pet Sounds, réussissent l'apothéose de Sgt. Pepper et dit sombre.
C'est-à-dire qu'il y avait une compétition extraordinaire entre ces groupes et ils se sont influencés mutuellement. Et effectivement, Sgt. Pepper a eu plus de succès que Pet Sounds. Mais aujourd'hui, Pet Sounds est un disque beaucoup plus fort.
Ah, voilà. Nous avons avancé donc dans ce registre des prodiges. Tout à l'heure, nous parlerons de littérature avec Josiane Savigneux à propos de Raymond Radiguet. On pourrait citer beaucoup d'autres gens, dont notamment, évidemment, comment peut-on dire,
L'un des hommes qui domine la littérature mondiale, Rimbaud, à partir de 19 ans, retraite et puis plus rien. Disparition donc en Afrique et puis finalement la mort terrible quand il reviendra en France. Mais tout ça, c'est un sujet ou ce sont des sujets que nous aborderons à propos des prodiges dans la deuxième partie de l'émission avec Korngold, avec Bertrand Cuillier, avec Fred Astaire, avec Félix Mendelssohn et avec Little Stevie Wonder. C'est dans un instant.
Secret de dirigeant avec Céline Cajoulis.
Cette semaine, je vous propose de découvrir un métier à travers un homme, Jacques-Emmanuel Saulnier. Jusqu'en mars dernier, il était le directeur de la communication de Total Énergie. Il est reconnu par ses pairs et par les journalistes comme un modèle. Il nous parle de la communication de crise, des rapports avec les dirigeants et du rôle du DIRCOM, un métier souvent méconnu, car généralement exercé dans l'ombre.
Secret de dirigeant, un podcast à écouter sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles.
Radio Classique présente son grand concert de Noël les 16 et 17 décembre au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Un événement féerique et magique avec la maîtrise des Hauts-de-Seine, le chœur Unicanti et l'ensemble Appassionato sous la direction de Mathieu Herzog. Avec la participation exceptionnelle du grand harpiste Xavier Demestre. Tous au grand concert de Noël de Radio Classique les 16 et 17 décembre au Théâtre des Champs-Élysées. Réservation au 01 49 52 50 50 ou sur théâtrechampselysees.fr.
Radio Classique et la salle Gaveau présentent Chopin ou le piano romantique. Un concert magique où Franck Ferrand dévoilera en musique l'univers secret de Frédéric Chopin en compagnie de l'un de ses meilleurs interprètes, le pianiste Nicolas Stavy. Chopin ou le piano romantique avec Franck Ferrand et Nicolas Stavy. Un concert Radio Classique le 14 février prochain. Salle Gaveau à Paris. Réservation au 01 49 53 05 07 ou sur salgaveau.com.
Laissez-vous emporter par la musique apaisante et spirituelle d'Arvo Pärt. Le Morphine Chamber Orchestra interprète les plus beaux chefs-d'œuvre du compositeur estonien. Stabat Mater, Summa, Fratres, Vater Unser. Avec la participation exceptionnelle de Roberto Lagna, Alexandra Kujak et Andreas Scholl. Arvo Pärt par le Morphine Chamber Orchestra. Un album aparté.
Les grandes œuvres à l'Auditorium de la scène musicale, c'est le rendez-vous des orchestres symphoniques. Le 24 novembre, à la tête de l'Orchestre National d'Auvergne, le pianiste et chef Christian Zacharias dirigera le tempétueux concerto numéro 9 Jeune homme de Mozart, dont il sera le soliste. Puis Haydn, avec la symphonie numéro 45 Les Adieux, dont l'adagio ne peut être pleinement goûté que sur scène. Rendez-vous avec les grandes œuvres et Christian Zacharias à la scène musicale, jeudi 24 novembre. Réservation sur lascenemusicale.com.
Jean-Philippe Collard revient dans le monde raffiné, discret et secret des Barcarolles de Gabriel Fauré. Les Barcarolles de Fauré par Jean-Philippe Collard. Un éblouissement de tous les instants. Une nouveauté, la Dolce Volta.
Radio Classique présente Nos Rois de France, le nouveau livre de Franck Ferrand.
Je vous raconte ces rois qui ont fait la France des premiers Capétiens à Louis-Philippe, leur vie, leurs œuvres, leurs véritables histoires, dans un ouvrage aux illustrations superbes.
Nos Rois de France, par Franck Ferrand, aux éditions Perrin. En vente partout et sur radioclassique.fr.
Radio Classique.
À ce jour, il n'existait pas d'histoire globale de l'éducation. Avec Histoire et Avenir de l'éducation, Jacques Attali dresse pour la première fois le tableau de toutes les formes de transmission des savoirs, depuis l'aube de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Il interroge l'avenir de cet héritage. L'école, notre précieuse école, résistera-t-elle au tsunami du numérique et à l'explosion démographique? Comment inventer les pédagogies de demain? Comment, par la transmission, échapper à la barbarie? Histoire et Avenir de l'éducation, le nouveau livre de Jacques Attali, un événement Flammarion.
C'est ma femme. Je voudrais connaître son emploi du temps quand elle vient à Paris, savoir où elle va, qui elle voit. J'ai des soupçons sur sa fidélité, je vous demande de vérifier, c'est normal.
19h, 20h.
L'enseignement majeur, c'est l'existence même, le Proust. Que dans le monde moderne, une telle vocation est existée, totale, et dans l'espace et dans le temps.
Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Voilà, j'aurais adoré que Michel Bouquet interprète des textes de Marguerite Duras, de voix exceptionnelles. Carole vous propose dans ce registre de réflexion, mais surtout de bonheur autour de l'écoute des prodiges, Korngold. C'est un concerto pour violon en ré majeur, joué par notre ami Renaud Capuçon avec le Philharmonique de Rotterdam, dirigé par Yannick Nézet-Seguin. Le voici. Déchirant et voluptueux, l'archet de Renaud Capuçon et évidemment l'orchestration de Korngold. La raison pour laquelle vous avez choisi ce titre, mon cher Carole.
Alors, c'est pas une œuvre de jeunesse, pour le coup, mais je pensais que c'était important de parler de Korngold. On a déjà un peu parlé de Mozart, on a fait référence à Liszt, on va parler de Mendelssohn, on a oublié peut-être celui qui était le plus grand génie précoce de l'histoire de la musique, Korngold, que l'on connaît aujourd'hui surtout pour ce concerto pour violon, bien sûr, pour des musiques de films, d'une qualité absolument exceptionnelle. Je crois qu'il obtient 2 Oscars et 2 nominations. Korngold, c'est vraiment le compositeur dont on peut dire qu'aujourd'hui, on joue encore certaines des œuvres qu'il écrit quand il a 11, 12, 13 ans, ce qui est quand même très rare dans l'histoire de la musique. Ce sera le cas également de Mendelssohn, on le verra. C'est aussi quelqu'un qui, là encore, est poussé par son père. Son père est un critique musical redouté de Vienne, plutôt conservateur dans ses goûts, Julius Korngold. Et c'est quelqu'un qui va être admiré de Mahler, admiré de Strauss, qui va étudier un peu avec Tseminski, qui lui dit surtout « N'allez pas dans un conservatoire, vous savez déjà absolument tout votre métier est impeccable, votre personnalité est en train d'éclore, il n'y a rien du point de vue artisanal à apprendre chez vous. »
Donc c'est l'exemple type finalement pour vous.
Je pense que c'est l'exemple type. Et en plus, c'est un compositeur à mon avis injustement méconnu, alors qu'il est l'auteur...
Plus maintenant.
Alors, on l'a redécouvert il y a une vingtaine, peut-être même quarantaine d'années. Il meurt en 57 si je ne m'abuse. Mais au moment où il meurt, sa musique pour le concert est à peine jouée. Et ce n'est que justice qu'elle le soit aujourd'hui.
Marc Lambron a choisi Bertrand Cuillier, claveciniste. Mais auparavant, vous vouliez apporter un commentaire.
Juste une chose, ce qui est assez prodigieux chez Korngold, c'est qu'en effet, il est admiré par Mahler et il écrit, si je ne me trompe, la musique du Robin des Bois de Michael Curtis. Mm-hmm. Donc quand même, on change d'univers. Autre chose, sur...
Là, les premiers films en couleur.
Sur ses enfants prodiges, c'est la rencontre du vieux Berlioz avec le jeune Saint-Saëns. Saint-Saëns vient voir Berlioz et au sortir de l'entretien, Berlioz dit « Il ne manque qu'une chose à ce jeune homme, c'est l'inexpérience. »
Oui. Saint-Saëns dont on pouvait dire justement qu'il a été 35 ans dans l'avant-garde et 35 ans dans l'arrière-garde.
Bertrand Cuillier, claveciniste, interprète Fandango d'Antonio Soler, c'est Marc Lambron qui l'a choisi. Alors là, est-ce que c'est le prodige au sens de la performance du claveciniste?
Oui, changent d'acception. C'est-à-dire, c'est plus l'enfant prodige, mais c'est d'abord le prodige, la virtuosité du claveciniste, et c'est la difficulté de la partition, parce qu'il doit la servir. Alors, bon, le Padre Solaire, je vais rapidement, il est né en 1729, il meurt en 1783, donc c'est Louis XV, Louis XVI en France. Là aussi, étude précoce, hein, étude musicale à 6 ans à Montserrat, organiste claveciniste, et surtout à 23 ans, il devient père hiéronymite, et il sera le maître de chapelle de l'Escorial, où il va mourir. Alors, il y a deux inspirations chez lui. Il est proche de Scarlatti. Vous savez, Scarlatti a passé les couacs italiens, les 30 dernières années de sa vie à la cour d'Espagne. Donc ça, c'est le côté profane, c'est le côté sonate, et par ailleurs, il va écrire des motets, des psaumes, c'est le côté religieux. Alors, le Fandango qu'on vient d'entendre, qui est peut-être le morceau le plus célèbre qui avait été exhumé par Raphaël Puyana, c'est une espagnolade à panache, étourdissante, jouée au clavecin, qui fera dire à certains que Soler était le diable déguisé en moine. Et en effet, il faut que l'interprète enlève, catapulte, en diable précisément ce morceau, qui est une sorte de corrida avec un torero au clavecin, et c'est ce que fait très bien Bertrand Cuiller.
Voilà, sur l'antenne de Radio Classique, nous avons le plaisir et le bonheur dans Bande à part de changer d'univers. Nous allons parler maintenant de Fred Austerlitz, à savoir Fred Astaire, qui a commencé la danse tout petit garçon. Il avait 5-6 ans, et puis finalement, c'est sa sœur Adèle qui va révéler ses talents de danseur. Professionnellement, il fait ses débuts dans la comédie musicale vers 1915, à partir de l'âge de 16 ans, et après, ça n'en finit plus. Il devient l'une des plus grandes stars d'Hollywood, d'élégance incarnée, avec cette voix très particulière, à la fois fragile et juste, « The Way You Look Tonight », c'est la BO du film « Swing Time » de 1936.
Someday, when I'm awfully low and the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Oh, but you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you just the way.
Voilà, Fred Astaire qui eut le temps de découvrir l'ascension de Michael Jackson, qui lui envoya d'ailleurs un chaleureux télégramme de félicitations pour son style de danse très travaillé, en le remerciant du plaisir donné. En retour, Michael Jackson lui dédia son livre intitulé Moonwalk. Et puis chez Astaire, il y a aussi l'élégance personnelle, les vestes, les cravates à la place des ceintures, les pantalons légèrement trop courts, et cette obsession de porter toujours des vêtements qui lui appartiennent et jamais des vêtements imposés par la production, pour donner justement à ces numéros de danse absolument faramineux et à ces chants justement une touche qui ne pouvait que lui appartenir. Marc, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Il y a un désarroi chez l'enfant star Fred Astaire, c'est quand sa sœur, parce que c'était un duo, se disjoint de lui, elle épouse un lord anglais assez tôt. Et quand dans les années 1930, avec le succès de ses films de Mark Sandrich, ses comédies musicales avec Ginger Rogers, il se rendait à Londres, un témoin a noté que les gens de l'aristocratie anglaise, qui étaient devenus le milieu de sa sœur, se conformaient presque à l'image, alors avec un tuxedo, avec un habit, robe du soir, que les comédies musicales projetaient. Très grande importance aussi en Europe, Ginger et Fred, le fascisme italien, aura promu et se sera inspiré de ces comédies pour faire ce qu'on appelait les téléphones blancs, qui sont ces comédies un peu sirupeuses que Cinecittà a promu à la fin des années 30 et pendant la guerre.
Voilà, Astaire qui s'est habillé évidemment avec les couturiers américains de Los Angeles et qui très rapidement, suivant le parcours défini par Marc, a décidé une bonne fois pour toutes d'aller se faire faire des costumes, des vêtements dans la fameuse rue donc de Londres, Savile Row, célèbre justement pour Anderson & Shepard et un certain nombre de couturiers qui ont marqué l'histoire du cinéma. Voici celui dont on parlait et qu'on attend avec beaucoup d'impatience, car dans le domaine du prodigieux et du prodige, il est peut-être l'exemple absolu dans la musique classique. Il s'agit de Félix Mendelssohn, dont on vient de célébrer le 175e anniversaire de la mort. C'est le quartier numéro 6 en fa mineur, interprété justement par un quatuor, qui est le quatuor Eben. C'est un choix de Carol Beffa que voici.
Carole Semain-Delson, dans ce quatuor que nous diffusons sur l'antenne de Radio Classique, il réunit les deux qualités qui sont la thématique d'aujourd'hui, c'est que c'est à la fois un prodige et prodigieux.
Tout à fait. Cette musique, alors ici, elle est particulièrement sombre, torturée, mais en général, Mendelssohn est l'un des rares compositeurs chez qui on peut parler d'optimisme musical quand il écrit plutôt en majeur. Beaucoup plus tard, on pourrait dire la même chose de John Adams. Mendelssohn, c'est effectivement un prodige étonnant, parce que là, pour le coup, on a souvent tendance à considérer que le romantisme, c'est soit certaines forces un peu prométhéennes, donc ça va être les forces qui s'affirment, celles de Beethoven, soit c'est un compositeur souffroteux, maladif, donc ça va être Chopin, soit, plus grave encore, les compositeurs qui sont à deux doigts tombés, de sombrer dans la folie, on en a parlé il y a quelques semaines. Mendelssohn, lui, porte bien son prénom, il est heureux, c'est un compositeur Félix, qui finalement aura eu tout pour lui, la beauté, l'élégance, c'est un sportif émérite. Il monte à cheval, il tire à l'arc, c'est un incroyable peintre, c'est un incroyable épistolier, il écrit dans plein de langues, il marque Goethe quand il a 12 ans, Goethe est extrêmement impressionné par ce jeune homme, il en parle longuement, et c'est quelqu'un dont les œuvres écrites à 12-13 ans sont vraiment rentrées au répertoire, ce qui, encore une fois, est plutôt rare chez les compositeurs, même enfants prodiges, dont on a parlé.
Félix Mendelssohn, un portrait évidemment flatteur et extraordinaire, fait par Carole Beffa, qu'on écouterait comme Burgala et comme Marc Lambron, donc pendant des heures, sur ces petites biographies qui interviennent au milieu de ces morceaux, donc consacrés aux prodiges. On l'appelait Little Stevie Wonder, pour des raisons que va nous expliquer Bertrand Burgala. C'est probablement l'une des icônes de la musique américaine, du songbook américain. Le voici dans Golden Lady, c'est un titre qui évidemment ne fait pas partie des plus célèbres, mais qui date de 1960. Est-ce que ça aura lieu encore une fois en France, vous qui écoutez Radio Classique, c'est-à-dire un concert de Stevie Wonder? C'est toujours exceptionnel de le voir sur scène avec tous ces musiciens noirs américains qui sont vraiment des monstres et qui permettent justement de justifier ce titre qui est peut-être celui justement du compositeur, en tout cas de musique pop et de soul le plus envié de la musique américaine, toujours évidemment en activité et qui fut pendant des années et qui est encore l'idole de Barack Obama. L'album s'appelle Inner Vision et c'est un choix que vous avez fait délibérément, mon cher Bertrand.
Eh oui, cher Guillaume, j'avais d'abord pensé à Carole, parce que je crois que tu as été très précoce, Carole, mais j'avais peur vis-à-vis de l'ARCOM quand même on est très éthique quand même dans cette émission et donc j'ai pensé à Stevie Wonder parce que je trouve que ce qui est prodigieux aussi chez lui, c'est qu'il est passé plusieurs fois pas très loin du désastre, d'abord à la naissance parce qu'il est prématuré, il est devenu aveugle à la suite d'une suroxygénation de la couveuse, ce qui arrivait souvent à l'époque. Il est signé à 11 ans comme une curiosité. Et en 66, ça marche très bien hein, dès qu'il est signé. Mais en 66, les ventes commencent à baisser, la voix mue, et c'est ce que disait Marc tout à l'heure. Et Berry Gordy, qui applique, le patron de Tamla Motown, qui applique à la musique noire les méthodes industrielles d'Henry Ford. Et vraiment, il calque ça. Il y a des comités d'écoute, on teste le produit. Il pense à s'en débarrasser et il est sauvé par une compositrice de Motown, Sylvia May, qui dit à Gordy, est-ce que tu reconsidérerais ta décision si j'arrive à pondre un tube pour Stevie? Elle écrit avec Harry Cosby, elle écrit Uptight, et ça repart. Et voilà, et je trouve que c'est quelqu'un aussi qui a réussi justement à grandir, parce que ce qu'on vient d'écouter, ça fait déjà, oui, 7 ans que sa carrière qui sort des disques. Et il a eu...
Il a les plus grands albums, justement, de la pop et de la soul, sont, c'est A Key for Life.
Songs in the Key of Life.
Oui, Key of Life, pardonnez-moi, mon cher Lambron, heureusement que vous êtes là.
Donc ça veut dire qu'il a 72 ans.
Voilà, 72.
Et on a l'impression qu'il a depuis, un siècle.
Un siècle, mais en tout cas, nous l'attendons en France et il est toujours sur scène quand il le peut. Je voudrais qu'on fasse la transition avec vous, Marc, avant que Josiane nous parle de Raymond Radiguet. D'ailleurs, quand je dis Marc, c'est aussi une adresse qui est faite à Burgala et à Carole Beffa, car nous allons parler maintenant de précocité et de littérature. J'évoquais Rimbaud. C'est vrai que nous avons aussi en France une tradition qui est celle de la précocité des prodiges. Rimbaud en est évidemment le phénix absolu, mais c'est un peu quelque chose que nous savons faire, nous les Français, Marc.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a une forme de génialité adolescente qui a pu s'exprimer chez certains auteurs. Je parle pas de Denis Arnault, hein, mais et en effet, nous allons parler de Radiguet. Il y a un mot de Radiguet qui m'amuse toujours. Cocteau l'emmène à Montparnasse pour voir dans l'atelier d'un assez mauvais peintre. Il y avait un tableau qui était en cours d'exécution, c'est le cas de le dire, et Radiguet dit « il serait humain de l'achever ».
Nous avons rendez-vous avec Josiane, donc dans un instant, pour parler littérature et de Raymond Radiguet, lui aussi prodige. Merci à tous les trois de nous avoir accompagnés. Quand je dis merci, ce n'est pas la fin de Bande à part, bien au contraire, puisque la littérature entre en scène avec bonheur. Voilà le sourire. Vous avez déjà entendu peut-être la voix de Josiane, en tout cas toutes les semaines, pour parler de littérature prodige. Nous évoquions avec Marc il y a quelques instants la personnalité de Radiguet. Et c'est vrai que c'est un des personnages mythiques de l'histoire de la littérature française. Parlons de lui, parlons de son œuvre, parlons de ce fameux Diable au corps.
Et oui, vous avez cité Rimbaud, bien sûr. Bon, on peut aussi citer d'autres écrivains du XXe siècle qui ont commencé tôt, François Sagan, Philippe Sollers, mais ils ont eu une œuvre après. Radiguet, je l'ai choisi parce que c'est un météore. Il est né en 1903, comme Marguerite Yourcenar, comme Georges Simenon, comme Raymond Queneau, et il est mort à 20 ans, il est mort quelques années après, il est mort en 23, le 12 décembre, et il a écrit que deux romans, vous avez cité ce roman mythique, Le Diable au corps, mais alors j'ai relu ce week-end la biographie que lui a consacrée Monique Nemer, il y a une vingtaine d'années, chez Fayard, et ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette biographie, c'est que c'est une peinture aussi de tout le milieu littéraire et artistique de l'époque, et on s'aperçoit que ce jeune homme a fasciné les gens qui l'ont rencontré. Ah mais oui, alors il a connu tout le monde, il a connu Picasso, il a connu Modigliani qui a fait son portrait, Darius Milhaud, Max Jacob, Aragon et bien sûr Cocteau. Il faut qu'on s'arrête sur Cocteau parce que c'est ça qui détermine sa carrière au fond. Il rencontre Cocteau en 1918. Il n'avait fait jusque-là que du journalisme et quelques poèmes et c'est Cocteau qui lui dit qu'il faut passer à la vitesse supérieure en gros, qui pense qu'il va faire une œuvre magistrale. Très vite interrompu, malheureusement. Donc, ils ont une liaison, mais il faut dire que ce jeune homme qui a vécu si peu de temps, 20 ans, a eu beaucoup de liaisons avec des hommes et avec des femmes. Et alors, donc, le premier livre, c'est ce Diable au corps. Et alors, ce qui est fascinant aussi, c'est que ce livre, c'est le premier livre, sans doute, de la littérature qui est lancé comme on le fait aujourd'hui avec la pub, quoi. Alors, Bernard Grasset fait des panneaux partout. Le premier roman d'un écrivain de 17 ans. Et alors, on trouve ça un peu scandaleux à l'époque, voyons, c'est pas bien. Alors, le Diable au corps. Donc, on a dit que c'était inspiré d'une histoire qu'il a eue quand il avait 14 ans, avec une femme de 23 ans qui s'appelait Alice Saunier. Dans le livre, la femme n'a que 18 ans, elle est mariée. Alice Saunier, elle était seulement fiancée, son fiancé était au front, ce qui était déjà scandaleux, enfin, du détournement de femme dont le mari ou l'amant était au front. Donc on a beaucoup parlé du fait que c'était un livre autobiographique. Et moi, j'ai trouvé ce que Radiguet lui-même en a dit, et ça m'a bien intéressé. Ce petit roman d'amour n'est pas une confession. On y voit la liberté, le désœuvrement dû à la guerre, façonner un jeune homme et tuer une jeune femme. Le roman exigeant un relief qui se trouve rarement dans la vie, il est naturel que ce soit justement une fausse biographie qui semble plus vraie. Moi, j'ai relu ce livre, 128 pages, c'est en folio, je le conseille à tout le monde. C'est vraiment magnifique. Je vous en dis une phrase ?
Bien sûr.
Nous croyons être les premiers à ressentir certains troubles, ne sachant pas que l'amour est comme la poésie et que tous les amants, même les plus médiocres, s'imaginent qu'ils innovent. Est-ce que c'est pas magnifique ?
Ça l'est. Merci Josiane. Les prodiges étaient au programme de Bande à part. La semaine prochaine, nous allons parler de tous les aspects dans les génies de la musique. Beethoven.